sais pas si tu penses à JB. La chaussette, c'est le dernier champ ou... ouais. Alors, bonjour à tous, à ceux que j'ai pu saluer, à ceux que j'ai pas encore vus. On se verra après, j'espère. Ce matin, on termine notre dernier message sur la mission d'une église avec les 4 points qu'on donne. Et je ne sais pas si tu te souviens assez bien de ton enfance pour me dire, peut-être que tu préfères pas me le dire, mais pour savoir, tu voulais ressembler à qui quand tu étais petit, quand tu étais petite? Tu voulais ressembler à qui? Moi, je peux vous le dire avec honte. Hein. Moi, je voulais ressembler à mon papa, ça, j'en ai pas honte, ça, c'est normal. Mais les premières années, moi, je voulais être David Croquette, trappeur et tout ça. Et donc, je suis devenu un boutonneux à lunettes qui lisait que des livres. Mais voilà, ça, c'était, je voulais ressembler à un dur qui allait dans les bois, qui tuait des ours et tout ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est pas ce à quoi je voulais ressembler, mais c'est que c'est ancré en chacun de nous. Dès notre naissance, un enfant est dans l'imitation. Les psychologues parlent même de sur-imitation. Parce qu'on n'est pas en train d'imiter simplement ce qui est utile, on imite le geste près. Et ils ont fait des tests à travers plein de cultures différentes. Où ils vont faire un jeu pour essayer d'ouvrir une boîte et il y a un cadeau dedans et ils vont prendre des centaines d'enfants de cultures différentes et l'adulte va montrer comment faire en rajoutant des étapes non nécessaires et l'enfant le sait parce qu'il a joué avec la boîte tout seul précédemment et il a vu comment ça marche. Et pourtant, les enfants, quasiment tous, vont reproduire les gestes à l'identique que l'adulte vient de leur montrer. Et c'est ancré en chacun de nous. L'imitation est profonde dans nos jeux, dans notre façon d'imiter nos parents, d'imiter nos copains et copines. La sur-imitation des enfants est une loi universelle qui traverse toutes les cultures. Et pourquoi je mentionne ça? C'est parce que cette imitation est encore en nous. On est juste peut-être un peu plus au courant de ça et on essaie de mieux le cacher. Peut-être on est un peu plus sûr, de qui nous sommes et peut-être on arrive à résister à certaines tentations de vouloir imiter des personnes qui ne sont pas forcément recommandables. Mais c'est là en nous et c'est une bonne chose. Et on va voir ça dans ce dernier point de notre mission de l'Église, aimer, transmettre. Aimer, transmettre. Alors, on a un PowerPoint du tonnerre fait par Naël. Merci Naël. D'ailleurs, merci JB, merci à toute l'équipe qui a servi. Merci pour un super choix de chant et de texte biblique ce matin. Et Jean-Luc pour les logos, tout à fait. Et plein de monde que j'oublie, mais... On a 4 points. Qu'est-ce que c'est la mission d'une église? C'est aimer Dieu, aimer l'assemblée, aimer la ville, aimer transmettre. Et les églises peuvent le formuler différemment, mais une église biblique aura quelque part ces 4 composantes. Parfois, il le résume en 3, parfois il le résume en 2. Mais ces 4 composantes sont... partout dans la Bible, aimer Dieu, aimer l'Église ou aimer l'Assemblée, aimer la communauté des croyants, aimer ceux qui sont à l'extérieur dans notre ville, dans notre pays, sur notre planète, qui rejettent encore Jésus comme sauveur, mais qui aussi sont créés à l'image de Dieu et méritent notre amour, méritent notre compassion. Et puis aimer transmettre ce matin. Alors, on va regarder, d'ailleurs, le slide, il est... Je vais pas. Aussi, oh, si, allez, vas-y. Donc, aimer Dieu, il y a plein de façons d'aimer Dieu, bien sûr, mais ce qu'on entend par ça, c'est placer notre foi dans la vie parfaite de Jésus. Avant tout, c'est ça. Placer notre foi dans la vie parfaite de Jésus, qu'il est mort pour nos péchés. On avoue en disant ça, je suis bien pire que je ne pensais. Le Fils de Dieu a dû mourir pour moi. Et croire qu'il est ressuscité 3 jours plus tard. Et ça, c'est croire en fait que Jésus a parfaitement payé pour nos péchés. S'il était resté mort, si un jour on découvre le corps de Jésus quelque part, ça veut dire que Jésus n'a pas pu payer pour tous nos péchés. Ça veut dire que nous, on va encore devoir les purger. Mais en 3 jours, Jésus a parfaitement effacé notre dette. Et il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Et ce qu'on t'encourage à faire, si c'est, tu n'es pas encore sûr, est-ce que j'aime Dieu, est-ce que j'ai cette foi en Jésus, viens chaque dimanche découvrir ce grand Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ, qui a montré son amour, qui nous donne sens, qui nous donne espérance. Viens chaque dimanche au culte. Il y a plein d'autres façons d'aimer Dieu, mais on t'encourage à commencer avec ça. Tu peux lire ta Bible, tu peux lui parler, tu peux... On va pas lister tout ce que tu pourrais faire, mais dans notre ère individualiste, le culte est tellement négligé. Alors que c'est justement là, ensemble, où on peut découvrir Dieu en tant que communauté. Deuxième, valeur, c'était l'ancienne façon de parler de ces quatre points, c'est deuxième aspect de notre mission d'église, c'est aimer l'assemblée. Parce que Dieu nous aime, tout d'un coup, on est capable d'aimer les autres comme on devrait. Au lieu de se servir des autres, on est capable de se mettre au service des autres. Parce que Jésus s'est mis au service de nous. Et ce qu'on t'encourage à faire, c'est rejoindre une église de maison pour justement qu'on ait des petites unités familiales qui se connaissent vraiment, qui se soutiennent les uns les autres, qui sont là pour traverser les moments difficiles de la vie, pour prier les uns pour les autres chaque semaine. Et donc les églises de maison, tu peux encore t'inscrire. Troisième point, ce qu'on a vu dimanche dernier avec Jonas, le livre de Jonas, c'est aimer la ville. C'est peut-être moins clairement enseigné dans toute la Bible, il y a pas mal de textes, mais c'était un peu plus nuancé. Mais on voit que le cœur de Dieu, c'est qu'il aime les rebelles, il aime les païens, il aime ceux qui le détestent, qui ne méritent pas l'amour, parce que c'est pour ça qu'il nous aime, c'est pour ça qu'il nous a aimés. Et on t'encourage à vraiment faire une priorité, de prendre du temps pour tes voisins, à prendre du temps. Si tu es régulier au culte, si tu dis oui, j'aime Dieu, et que tu vois vraiment un progrès dans ton amour pour la communauté, est-ce que tu as du temps pour ceux qui ne te ressemblent pas ? Pour ceux qui rejettent ton sauveur, est-ce que tu peux leur montrer de l'amour? Et quatrième point ce matin, aimer, transmettre. On va voir trois choses. On va passer la plupart de notre temps dans 1 Thessaloniciens. Mais avant d'ouvrir ça, il y aura le point, le grand 1. Et le grand 1, ça va être une longue intro intéressante sur la sexualité, entre autres. Ok? Donc j'espère que là vous êtes super captivés et je vais vous avoir pour cette intro. En fait, ça va être une théologie de la reproduction. Ok. Deuxièmement, on va voir que chaque croyant est appelé à imiter. Et troisièmement, que chaque croyant est appelé à être imité. Donc, commençons. Je vais prier quand même pour nous. Parce que le point 1 pourrait déraper. Non, ça craint pas. Père, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Tu vois nos cœurs à tous. Tu sais ceux qui ont eu des semaines difficiles, ceux qui ont des semaines formidables. Tu sais, ceux qui sont venus à reculons, ceux qui ne sont même pas venus peut-être parce que c'est trop difficile de venir. Ouais, s'il te plaît, accompagne-nous, travaille dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Aide-nous à nous réjouir quotidiennement du grand Dieu que tu es et de ce que tu as fait pour nous réconcilier avec toi. Et Père, dans ces quelques minutes ensemble, aide-nous à tous voir où est-ce qu'on en est. Dans cet appel à transmettre à d'autres ce que tu nous as donné. Aide-nous, Père, à voir ce que tu attends de nous et s'il te plaît, donne-nous les forces de mettre en pratique, d'être transformé, de te glorifier par notre façon de vivre cette mission d'Église. On demande tout ça, Père, au nom de Jésus, notre grand modèle et notre Sauveur. Amen. Alors, au début, on doit commencer avec le début, hein. Et donc, je vous propose que pour cette théologie de la reproduction, on commence en Genèse chapitre 1. Et je vous rappelle, la semaine prochaine, on commence à faire ce qu'on fait habituellement, à traverser des livres entiers de la Bible, pour qu'on ne puisse pas sauter d'un texte à l'autre. On va voir tout ce que Dieu dit dans un livre. On commence Tite dimanche prochain. Mais ici, on voulait commencer l'année avec cette série sur notre mission en tant qu'Église. Donc regardez avec moi Genèse 1, verset 28. Et retenez ce mot, mandat. Les spécialistes de la Bible, les théologiens, tout ça, parlent souvent ici de ce texte comme le mandat culturel. Le mandat culturel, tout ce qui est culture, c'est la création d'une société, la domination de la nature, des choses, pour en créer quelque chose de différent, d'une valeur. Et regardez ce que Dieu nous ordonne aux premiers êtres humains et à toute leur descendance. En Genèse 1, verset 28, donc c'est la page 3 dans les Bibles blanches, si tu en as une, comme moi. Page 3, deuxième colonne. Dieu les bénit, donc il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Et chacun de ces textes, bien sûr, pourrait être un message à lui tout seul. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est dès le début, le plan de Dieu, c'est que le premier homme et la première femme remplissent la terre d'êtres humains, qu'ils se reproduisent et qu'ils soient nombreux et qu'ils couvrent la face de la planète. Dieu s'attend à une multiplication d'enfants. Et ensuite, une fois qu'il commence sa relation privilégiée avec un homme et il crée un peuple à partir de cet homme, Abraham, dans Deutéronome, donc là c'est un peu plus compliqué à trouver, ça va être la page 129, Dieu va expliciter encore plus. Donc Deutéronome 6, verset 7, Dieu donne des lois à son nouveau peuple, le peuple d'Israël, et il leur parle déjà de ce fait de multiplier à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants cette loi, de transmettre cette loi aux générations suivantes. On lit Deutéronome 6, verset 7, et on va prendre le verset 6 en plus. « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Et puis verset 20, un peu plus bas, tout en bas de la colonne. « Lorsque ton fils se demandant un jour, que signifient les instructions, les prescriptions, les règles que l'Éternel ton Dieu, notre Dieu vous a données, tu lui diras, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a accompli sous nos yeux de grands miracles et prodiges, porteurs de malheur pour l'Égypte, pour le Pharaon et pour toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos ancêtres de nous donner. L'Éternel nous a ordonné de mettre toutes ses prescriptions en pratique et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons droit à la justice lorsque nous veillerons à mettre en pratique tous ses commandements devant l'Éternel notre Dieu comme il nous l'a ordonné. » Donc, Dieu a le projet de remplir la terre de sa création. C'est pour ça que les hommes et les femmes ont des enfants. Et on doit les remplir la terre avec des enfants qui connaissent l'Éternel, qui obéissent à sa loi. Sauf que, grand changement. Parce que tout le reste, si on voulait résumer simplement comme ça, tout le reste de l'Ancien Testament, on découvre qu'il y a un problème fondamental dans le cœur de chaque être humain qui rejette Dieu, qui fondamentalement déteste Dieu, parce qu'il préfère être maître de sa propre vie. Il pense mieux savoir que l'être le plus intelligent, ce qui est bon pour lui, ce qui le rendra heureux. Alors que Dieu nous avait donné cet ordre de transmettre notre connaissance de Dieu pour que nos enfants soient justement heureux. Donc tous les parents étaient concernés, et on retrouve ça ensuite dans les proverbes, dans certains psaumes, on retrouve que génération après génération rejette ces commandements justement en Israël. Et c'est vraiment la catastrophe. Là, on est dans la théologie de la reproduction, dans le sens vraiment hommes, femmes qui ont des enfants. Jésus introduit un énorme bouleversement. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, et c'est là où on revient avec le mot mandat. Je sais que c'est un mot qu'on n'utilise pas trop souvent. Il y a les mandats cash avec... comment ça s'appelle ? Non, moi je ne pensais pas à la poste. Je pensais au truc pour envoyer en Afrique où il y a plein d'arnaques. Ouais, merci. Le mandat missionnaire de Matthieu 28, c'est le texte qu'on a prêché l'année dernière, c'est Matthieu qui a déjà traité ce texte, et c'est incontournable pour parler de « on est des disciples de Jésus appelés à faire des disciples », il n'y a pas texte meilleur que celui-là. On va le prendre quand même très rapidement, mais Matthieu l'a pris l'année dernière, on ne va pas le reprendre, je voulais quand même qu'on regarde autre chose. Mais regardez ce qui se passe ici, on a parlé d'un mandat culturel en Genèse 1, où on a l'ordre de dominer la terre, de remplir la terre, de se reproduire. Et ici, maintenant, ça switch, ça bascule. Jésus donne quoi comme ordre à ses disciples? Là maintenant, tout le monde est concerné, pas juste les couples mariés justement. Faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, versets 16, 17, 18, 19 et 20. Jésus, au verset 18, s'approche et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. » Tout d'un coup, le mandat missionnaire suppose que la terre a plein de monde, mais que le problème, maintenant, c'est qu'ils ne sont pas disciples du roi Jésus qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Vous voyez ce qui se passe ici? On a un texte qui passe de tous les êtres humains devraient se reproduire et remplir la terre à Jésus qui parle à tous ses disciples en leur demandant de faire des disciples de toutes les nations, d'aller aux coins les plus reculés. Parce que là-bas, Jésus n'est pas encore connu. Là-bas, Jésus qui a tout pouvoir sur le ciel et sur la terre n'est pas encore adoré, n'est pas encore honoré. Et donc on passe d'une multiplication d'enfants en Genèse 1 à ici une multiplication de disciples en Matthieu 28. C'est toujours en fait une théologie de la reproduction. Comment est-ce qu'on fait des enfants? Mais ici on change. Les enfants qu'on recherche, ce sont des enfants qui ont le cœur transformé parce qu'ils réalisent que Jésus est mort pour eux. Qu'ils réalisent que c'est pour eux que Jésus a souffert sur la croix. Que c'est parce qu'il a payé pleinement nos péchés, qu'il est ressuscité. Et ces disciples-là, c'est à eux que Jésus parle. Donc on passe de remplir la terre à transformer les êtres humains partout sur la terre. La terre appartient à Jésus, tout pouvoir lui a été donné, et maintenant on veut que des gens dans toute nation, dans tout peuple, connaissent ce grand Jésus qui règne. Et qui un jour va juger tout être humain. Et puis on pourrait, et on devrait, beaucoup de personnes vont dire que Matthieu 28 ne s'applique pas aux chrétiens. Donc si vous lisez un peu de théologie, un peu de livres de théologiens, ils vont trouver plein de manières de vous dire que ça ne s'applique pas à nous, que le Nouveau Testament ne montre plus ça, tout ça. Ça pourrait prendre beaucoup de livres ou plusieurs heures pour en parler. Juste quelques pistes, rapidement, quand vous lisez des choses comme ça. Matthieu 28, Jésus parle effectivement à ses disciples. Et les gens vont dire, par exemple, il parle à ses apôtres. Ce n'est pas juste des disciples normaux, c'est les futurs responsables de l'Église. D'ailleurs, on ne parle plus du tout du besoin d'annoncer l'Évangile, que tous les chrétiens annoncent l'Évangile plus tard dans le Nouveau Testament. Quelques pistes. La plus forte, il me semble, c'est verset 20. Jésus dit, donc, allez donc, faites de toutes les nations disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Jésus ne dit pas dans ce verset, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, sauf la dernière prescription. Parce que celle-là, c'est juste pour les apôtres. Vous voyez? Ici, il commence un cercle vertueux. Ceux qui croient en moi parce que je suis mort pour eux, dites-leur tout ce que je vous ai commandé, ordonné, de comment vivre une vie maintenant qui me reflète, qui me ressemble, qui ressemble à la vie qu'on va avoir dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, dans le royaume de Dieu. Dites-leur comment vivre maintenant. S'ils croient en moi, dites-leur comment vivre. Dites-leur comment obéir à toutes mes prescriptions. La dernière prescription qu'on a dans les évangiles, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est vraiment pour moi le plus gros problème avec les arguments que ce texte serait juste valable pour les apôtres ou juste valable pour les responsables d'église. Et quelques autres pistes peut-être. Les actes nous montrent que les chrétiens, même des chrétiens lambda, parlent de Jésus, ne peuvent pas s'empêcher de dire aux gens que Jésus est ressuscité, de dire aux gens comment Jésus a changé leur vie. On voit ça ensuite dans Philippiens, on voit ça dans Romains, on voit ça dans 1 Thessaloniciens. Ils ne peuvent pas s'empêcher. On voit aussi que la mission est trop grande. Troisième raison pourquoi j'ai un problème, on a un problème avec les théologiens qui viennent dire que ce texte n'est plus valable aujourd'hui. La mission, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. 11 hommes n'ont pas fait des disciples de toutes les nations. Même les responsables d'église n'ont pas fait des disciples de toutes les nations. La mission, elle est énorme. Et tous les disciples sont appelés à prendre part dans cet effort énorme. Et enfin, petit détail, mais on a ici le seul texte qui parle du baptême. Qui ordonne le baptême, pardon. Merci Jean-Marc pour le regard bien attentif. On a le seul texte ici qui ordonne de baptiser. Donc si tout d'un coup on le limite aux apôtres, ben on n'a plus de légitimité non plus de baptiser. On voit des gens qui baptisent, on voit même des non-apôtres qui baptisent, on voit même des non-responsables d'église qui baptisent. Est-ce que ce n'est pas parce que ce texte est pour tous les chrétiens de tous les âges jusqu'au retour de Jésus? Alors, fin de... Pardon. Dernier texte de la longue introduction sur la théologie de la reproduction. Regardez avec moi le dernier livre de la Bible, celui qui fait peur avec son grand nom, l'Apocalypse. Apocalypse 5 et Apocalypse 7, on va regarder deux passages. Apocalypse, ça veut dire révélation, hein. C'est beaucoup moins effrayant comme ça. C'est une vision de comment Dieu va gagner le grand combat, la grande guerre ou le grand match, si vous voulez. Il est vainqueur et donc ça devrait nous encourager au quotidien parce qu'on connaît déjà la fin du film. Et Apocalypse 5, on a cet aperçu du succès de cette mission de Matthieu 28. On sait qu'on va réussir. Jésus a tout pouvoir sur le ciel et sur la terre et on va réussir. Donc là, on voit chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau. On a une vision de l'avenir. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu... » Donc là, il chante à l'agneau. Il chante à Jésus qui est mort comme sacrifice. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Voici ce que Jésus est venu faire. Mourir pour racheter, pour prendre pour lui des personnes, des disciples, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et une vision, ça c'est, on pourrait dire, ah ben ça c'est pas encore accompli, ça c'est le but de Jésus. Chapitre 7, regardez maintenant, chapitre 7, page, pardon j'ai oublié les pages, hein, 813, c'est deuxième colonne en bas, versets 9 à 12, l'apôtre Jean a la vision d'une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches et des feuilles de palmier à la main. Ils criaient d'une voix forte « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants se prosternèrent, le visage contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches et de feuilles de palmier à la main. Voilà à quoi ressemble la fin du film, ou plutôt la fin du générique, avant que le vrai film de la vie éternelle dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre commence. Jésus va être vainqueur. Il est vainqueur. Il a tout pouvoir et sa mission va s'accomplir. Et c'est incontournable. Si tu as été sauvé, tu fais partie maintenant de ces disciples qui sont appelés à annoncer ce salut. Et on va prendre ça beaucoup plus rapidement. Normalement, les deux derniers points. Point 2, chaque croyant est appelé à imiter. Prenez avec moi maintenant le texte principal, 1 Thessaloniciens. Page 776. « J'espère que pour les plus jeunes ou les célibataires ou les plus vieux, vous comprenez aussi en quoi cette longue intro devient hyper pertinente pour nous tous. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, la transmission se faisait par la reproduction sexuelle. C'était une malédiction de ne pas avoir d'enfant. Parce qu'on disparaissait, notre nom était effacé. On perdait nos propriétés. Tout dépendait d'avoir des héritiers. Mais aujourd'hui, Jésus, il appelle à lui des disciples. Peu importe que tu sois marié ou pas, que tu puisses avoir des enfants ou pas, que tu sois trop jeune pour avoir des enfants ou trop vieux pour avoir des enfants, peu importe si tu as les forces pour simplement vivre et croire en ton Sauveur, tu es appelé à rejoindre maintenant cette mission de multiplication. Donc chaque croyant est appelé à imiter. Regardons le texte. Page 776, à partir du verset 4 du premier chapitre, donc la première colonne. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Je vais le relire encore une fois. 1 Thessaloniciens 1, versets 4 à 6. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Si les détails qu'on a sur cette lettre dans le Nouveau Testament, c'est tout ce qui s'est passé, il faut savoir que Paul a passé 3 semaines dans la ville de Thessalonique pour leur annoncer la mort et la résurrection de Jésus. Certains pensent qu'il a passé un peu plus de temps que ça quand même. Mais il n'a pas passé beaucoup de temps. Et en l'espace de quelques semaines, voire peut-être quelques mois, il y a un nombre incroyable de personnes qui se sont détournées de leur ancienne vie et qui ont cru que Jésus était leur sauveur, était le roi de l'univers. Et Paul, à ces jeunes chrétiens, ces tout jeunes chrétiens, il les félicite parce qu'ils sont devenus ses imitateurs. Vous avez vu le mot qu'on a lu 2 fois. Ils sont devenus ses imitateurs et les imitateurs du Seigneur. Autrement dit, de Jésus lui-même. Dans beaucoup de ses lettres, Paul attire l'attention sur son propre exemple. Et nous, on a du mal avec ça dans notre propre vie, on dirait, mais non, mais attends, imite Jésus, pas moi. Et Paul, il n'a pas de problème de dire, imitez-moi comme j'imite Christ. Et il le dit à de nombreuses reprises. Et en fin de compte, c'est là qu'on revient à cette imitation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as répondu. Tu voulais être qui? Comme qui quand tu étais petit, quand tu étais petite? Mais encore aujourd'hui, on imite, qu'on le réalise ou pas. Et en fin de compte, en devenant chrétien, Dieu encourage cette imitation. Qu'on prenne les bons modèles, qu'on imite Jésus et qu'on imite tous ceux qui ressemblent de plus en plus à Jésus. Et c'est vraiment le langage d'un parent. Regarde avec moi dans ce texte, cette page. Sur cette page, donc la page 776, Paul utilise le langage de la mère et le langage du père. Donc chapitre 2, verset 7, en parlant aux Thessaloniciens, Paul dit « Mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous, de même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. » Paul se sent comme une mère envers ces tout jeunes bébés croyants, ces nouveaux disciples de Jésus. Il se sent comme une mère. Et c'est normal que des enfants, des bébés, commencent à imiter la maman. Ils apprennent qu'est-ce que c'est la vie chrétienne. Et quelques versets plus loin, au verset 11, Paul dit en plus, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Et puis ensuite, il va encore les féliciter qu'il l'imite. Ça va revenir une deuxième fois dans le chapitre. Paul se considère comme un père spirituel, comme une mère spirituelle pour eux. Il se soucie d'eux et il trouve ça complètement normal de dire « Vous m'imitez et c'est super bien. » Et comment est-ce qu'ils imitent Jésus? Comment est-ce qu'ils imitent Paul? Paul donne quelques éléments. Il dit « En accueillant la parole, au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. » Donc ils sont en train d'imiter la foi de Paul. Ils croient en la même chose que Paul croit. Ils l'imitent dans leur obéissance et leur persévérance, malgré la persécution qui survient directement après qu'ils croient. Et ils l'imitent dans leur témoignage, très probablement. Parce que pourquoi le chapitre 2 parle d'autres souffrances qu'ils ont? Pourquoi est-ce qu'ils souffrent? Très probablement parce qu'ils affirment leur foi, parce qu'ils en parlent. Et donc, question pour nous. Est-ce que tu es consciemment un imitateur? Est-ce que tu vois ça comme étant « je suis chrétien, je suis disciple de Jésus et donc je cherche à ressembler à Jésus. Je cherche à imiter ceux qui sont dignes d'imitation. » Celui qui t'a parlé de Jésus, celui qui t'a montré la grâce, le pardon de Jésus, est-ce que tu t'efforces à lui ressembler partout où il est digne d'être imité? Est-ce que tu as des modèles? Des personnes où tu les regardes et tu dis, peut-être dans l'église, où tu dis, mais ouais, lui, franchement, je trouve vraiment un modèle dans sa façon de trouver sa joie en Dieu, d'aimer Dieu, dans sa façon d'élever ses enfants, dans sa façon de servir les gens. Je veux passer du temps avec cette personne. Je veux lui ressembler. Je sais que c'est tout de suite bizarre hein, pour nous, Français individualistes, de parler de ça. On s'imagine même pas trop aller voir quelqu'un. Je voudrais être comme toi quand je suis grand. Je peux passer un peu plus de temps avec toi. On ne sait pas comment s'y prendre. Et en plus, alors peut-être c'est juste un truc de ma génération, mais je le sens quand même beaucoup dans les discussions avec les 20-30 ans, on pense déjà avoir tout compris. Donc pourquoi essayer d'avoir un mentor? Pourquoi essayer d'avoir quelqu'un, un chrétien plus âgé que nous, ou plusieurs, qui ont un droit de regard dans notre vie, qui ont un droit de parole? Et donc, c'est une question vraiment ouverte là. Je ne sais pas combien de temps ça fait que tu es chrétien. Là, je suppose, j'aurai un mot pour toi après si tu ne penses pas être chrétien. Mais je ne sais pas combien de temps ça fait que tu es chrétien. Peut-être que ça fait des semaines. Peut-être que ça fait des mois. Peut-être que ça fait des années. Mais est-ce que tu as clairement comme but d'imiter ceux qui sont plus avancés, ceux qui semblent vraiment être des modèles dans leur humilité? Des modèles dans leur façon de vite demander pardon pour leurs péchés, de vite se détourner du mal. Des modèles dans leur façon de parler de Jésus. Des modèles dans leur façon de s'occuper de leurs conjoints. Des modèles dans leur façon d'être à l'école. Modèle. Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches? Parce que si tu es chrétien, tu es devenu, on appelle ça un nouveau-né, tu es devenu un bébé et tu devrais vouloir imiter les adultes. Tu devrais vouloir imiter ceux qui imitent Christ. Et si tu me réponds, oui, mais j'imite Jésus, je dirais très bien, mais est-ce que c'est vraiment ta vraie réponse ou est-ce que c'est un cliché que tu as entendu? Parce que c'est super, si c'est actif, si c'est le désir de ton cœur, excellent, fonce. Regarde à Jésus tous les jours. Regarde comment il est avec les gens. Regarde comment il gère son temps. Regarde comment il est prêt à mourir par amour. Sacrifier tout par amour. Mais on craint que très souvent, on oublie qu'on est appelé à imiter sa joie, imiter sa relation constante avec son Père. On oublie qu'on est en chemin. La Bible, à plusieurs reprises, dit que le but des responsables d'église, c'est d'amener les assemblées à la stature d'adulte parfait en Christ, qui ressemble à Christ. Donc c'est excellent si tu veux imiter Jésus. C'est excellent. Mais franchement, est-ce que c'est vraiment le désir de ton cœur? Alors, tout ça, c'est OK. Tu dis, bon, non, c'est pas le cas. Tout ça, comment faire? Il faut que j'essaie encore plus. Il faut que je sorte le fouet, que je me flagelle. Non. Verset 4. La puissance pour cette transformation. On a dit qu'un enfant, biologiquement, un enfant, un jeune, d'ailleurs même un adulte, on veut imiter. Mais un enfant ne peut pas s'empêcher d'imiter. Noah, franchement, c'est génial de voir au geste près, la main dans la poche, il est en train de faire tout comme son papa. On ne peut pas s'en empêcher. Si tu n'as pas ce désir d'imiter Jésus, ça n'a pas ce désir, cette humilité pour vouloir imiter ceux qui sont imitables. Regarde de nouveau à l'Évangile. Regarde à ce que Jésus a fait. Et confie-toi dans sa grâce. Regarde la suite de ce qu'il dit. Verset 7 jusqu'à la fin du chapitre. Ainsi vous êtes devenu... Oui, chapitre 1, pardon. Page 776, verset 7. « Ainsi vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants... » pardon, je voulais prendre le 6. « Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous, en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. » De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Je ne voudrais pas que tu entendes ici « Ah oui, donc je dois faire plus d'efforts pour imiter Jésus. Je dois faire plus d'efforts pour imiter ceux qui sont dans l'Église. » Non. Si tu crois que tu es en train de vivre, que tu servais des idoles, que tu avais mis ta confiance dans d'autres personnes que Dieu, dans ton image de soi, de toi-même, que si tu avais mis ta confiance dans le regard des autres, si tu avais mis ta confiance dans ta carrière, si tu avais mis ta confiance dans ton intelligence, si tu avais mis ta confiance dans ton compte en banque, si tu avais mis ta confiance dans ta force, dans ton look, si tu avais mis ta confiance en autre chose que Jésus-Christ, tu sers des idoles. Et le jour où tu réalises ça, le jour où tu réalises que Jésus est mort pour toi, pour te libérer de tes idoles, et que tu te détournes de ça, tu deviens un nouveau-né. Et ça sera automatique. Tu vas vouloir ressembler à Jésus. Tu vas vouloir ressembler à celui qui te parle de Jésus. Donc s'il te plaît, si vraiment tu te sens découragé et tu dis « mince, j'arrive pas, je veux pas, ça me semble horrible », regarde à ce que Jésus a fait. Et supplie-le de te sauver. Et si tu es sûr, tu dis, non, mais je suis sauvé, mais le désir n'est pas là. Supplie que lui te donne ce désir qu'un nouveau-né, qu'un bébé devrait avoir, d'imiter ses parents. Alors, troisième point, chaque croyant est appelé à être imité. On l'a vu, non seulement ces jeunes croyants à Thessalonique sont tout de suite devenus des imitateurs de Paul et de Jésus-Christ, ils sont devenus des modèles. Et on entend parler d'eux partout. Alors, il faut d'abord dire, on est tous des modèles, hein, en bien ou en mal. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos qui tournent sur YouTube où on voit les enfants, il y avait une campagne de pub assez trash là-dessus, où le slogan c'est « Les enfants voient, les enfants font ». Et on voit plein d'enfants qui sont en train de marcher côte à côte ou derrière des adultes, et qui sont en train de vomir sur les trottoirs parce qu'ils ont trop bu, en train de fumer des clopes et jeter des mégots par terre, en train de battre leur maman. Genre, c'est vraiment trash comme truc, mais il y a toujours... Tu es un modèle pour quelqu'un, en bien ou en mal. Tout le monde va être imité par quelqu'un. Donc on pourrait dire, on n'apprend rien avec ça. Mais ici, ils sont un bon modèle. les Thessaloniciens, dans leur foi sincère, leur joie dans le Saint-Esprit, malgré la persécution, ils sont un modèle pour plein de monde. Et donc, on continue les questions pour soi. Est-ce que tu te sens devenir un modèle pour d'autres, mais un modèle en bien d'humilité, un modèle en bien de gentillesse, de douceur, de maîtrise de soi, d'humilité aussi, de repentance aussi. Est-ce que tu es connu parce que tu demandes pardon très vite, sans t'endurcir, sans passer dans des semaines sans plus parler à la personne, lui faire sentir ta colère? Est-ce que tu as une joie profonde, comme on a chanté le dernier chant là? Peut-être, maintenant je suis un peu paumé, je ne sais pas si c'était le dernier chant ou pas maintenant, mais c'est « Béni soit ton nom ». Est-ce que tu as une joie qui, même quand tu perds des choses les plus chères, tu sais que l'essentiel ne pourra jamais être perdu? On parle souvent de je ne sais pas comment prononcer son nom, mais Horatio Spafford, qui a écrit le chant « Quel repos céleste ». On le chante assez fréquemment quand même, c'est un très vieux chant. Le gars était avocat d'affaires à Chicago. Il avait plein de propriétés à Chicago. Et il a perdu son fils de 2 ans dans les grands incendies de Chicago dans les années 1800. Il a perdu tout son argent aussi dans les incendies. Quelques mois plus tard, alors qu'il est en train de gérer encore les affaires, il a envoyé sa famille en Angleterre, ses 4 filles et son épouse. Ils ont pris le bateau. Le bateau a coulé. Il n'y a que l'épouse qui a survécu. Il a perdu son fils et ses 4 filles dans la même année. Et quelques semaines plus tard, il a pris un autre bateau. Et alors qu'il traversait la mer, il est arrivé sur le lieu où le naufrage s'était produit. Il est rentré dans sa cabine. Il a écrit un chant qu'on chante encore 150 ans plus tard. Quel repos céleste. En anglais, tout va bien avec mon âme. Est-ce qu'on est, peut-être pas à ce niveau-là, mais est-ce qu'on est inébranlable dans notre joie? Que parce qu'on sait que Jésus nous a sauvés, parce qu'on sait que Jésus a tout pouvoir sur le ciel et sur la terre, peu importe comment on me traite en ce moment, peu importe comment va mon corps en ce moment, peu importe comment va mon état en ce moment, je sais qu'un repos céleste m'attend. Je sais que Jésus est au contrôle de ma vie, même si en ce moment je ne le ressens pas. Est-ce qu'on est un modèle avec ça? Est-ce qu'on est un modèle dans notre amour les uns pour les autres? Que ce soit notre amour pour l'assemblée, que ce soit notre amour pour la ville, est-ce qu'on est prêt à des sacrifices par amour? Donc, terminons dans les questions. La première chose qu'il faut savoir, c'est commence avec qu'est-ce que Jésus a fait pour toi. Tu ne peux pas essayer d'imiter Jésus par tes propres forces. Commence en réalisant que Jésus est mort pour toi et il te donne la force au quotidien, il te transforme par son Saint-Esprit pour vivre une vie de disciple. Mais ensuite, si tu confesses croire en Jésus, si tu as demandé le baptême, tu es en train de progresser, quels sont les prochains domaines où tu voudrais progresser, où le Saint-Esprit est en train de t'indiquer en ce moment? Est-ce que c'est avec tes enfants? Est-ce que tu te rends compte que tu ne leur montres pas comment vivre la vie chrétienne? Eux, ils vont apprendre à placer Dieu en premier dans leur journée en te voyant le faire. Et on ne parle pas d'une heure face contre terre à prier de façon éloquente. On parle de est-ce qu'ils voient ton cœur sincère qui sait que sans Dieu, tu ne peux pas vivre la journée? Ça peut être une prière de 30 secondes le matin au petit-déj avec les enfants. Est-ce que ce ne serait pas le moment de commencer ça? Est-ce que c'est peut-être en tant que grand frère ou grande sœur? Ils te voient au collège, ils te voient au lycée, à la fac. Tes frères et sœurs te regardent. Tu as été baptisé récemment. Est-ce que tu sais que leur regard est sur toi et tu es en train de leur montrer à quoi ressemble la vie chrétienne? Je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça. Hein. Nous, en tant que chrétiens, on parle, on enseigne, on croit le sola scriptura, la doctrine du sola scriptura, c'est que l'écriture seule est notre ultime autorité pour nous faire connaître Dieu, l'évangile et à quoi devrait ressembler la vie chrétienne. Ça, on le croit, et je l'affirme haut et fort. Mais sola scriptura ne veut pas dire que c'est la seule autorité. C'est l'autorité ultime qui vérifie toutes les autres autorités. Et tu es en train de révéler la vie chrétienne. Tu es en train de montrer aux gens qu'est-ce que c'est être un disciple. Notre tradition d'église montre aussi aux gens qu'est-ce que c'est Dieu, qui est Dieu et qu'est-ce que c'est la vie chrétienne. Mais nous tous, si nous croyons en Jésus, on montre aux gens qu'est-ce que c'est être chrétien. Donc, est-ce que tu le montres par ton attitude avec tes enfants, avec tes frères et sœurs, avec ton conjoint, avec tes amis, tes collègues, les autres chrétiens dans l'église? Est-ce que, en te regardant, on sait, ah oui, être chrétien, c'est savoir qu'on est bien pire qu'on le réalise. Être chrétien, c'est savoir que Dieu lui-même a dû mourir pour nos péchés. Être chrétien, c'est jamais croire qu'on est sauvé par nos propres efforts. Mais c'est être transformé aussi. Est-ce que ça se voit? Beaucoup de questions. J'ai pas les réponses parce que c'est une affaire entre toi et le Saint-Esprit. Mais nous, en tant qu'Église, on a un conseil. Si tu devais faire une chose et tu sais pas où commencer, la chose qu'on a vue produire le plus d'effets, de fruits dans les vies des gens de façon tangible, et on peut faire un lien entre ce qu'ils ont fait et le changement, c'est ce qu'on appelle les groupes de croissance. Parce que chaque semaine, on se retrouve 60 minutes maximum pour prier ensemble. Là, c'est la partie la plus difficile. Ça prend du temps au début. Il faut vraiment s'engager à la confidentialité, se confesser les péchés les uns aux autres. Avouer là où on a échoué. Et ensuite, on prie que la semaine prochaine, on puisse venir se voir et dire « Ouais, c'était une bonne semaine. Je ne me suis pas mis en colère avec aucun de mes enfants cette semaine, par exemple. » Attention, j'ai entendu des trucs. Les groupes de croissance, ce n'est pas la seule façon de faire des disciples. Et j'espère qu'on ne se limite pas à ça. Mais si tu n'as pas un groupe de croissance, c'est un chrétien plus âgé peut-être, plus mûr, que tu vas voir, est-ce que tu accepterais de m'accompagner pendant 6 mois et qu'on se voit une fois par semaine pendant 6 mois? Mettez une date, après vous faites le bilan. Mais vous faites grosse lecture de la Bible ensemble et vous en parlez de qu'est-ce que Dieu nous a dit cette semaine? Où est-ce que j'ai lutté et comment est-ce que je peux prier? 3 choses qu'on fait chaque semaine. Et les progrès qu'on a vus dans des chrétiens ont été vraiment exceptionnels quand on joue le jeu, quand on y vient sincèrement et on se livre tel qu'on est, en sachant que l'autre est aussi pécheur et qu'il y a la confidentialité dans ce groupe. Ça peut être 2 personnes, ça peut être un trinôme aussi. Personne du même sexe, s'il vous plaît. Mais s'il te plaît, réfléchis à ça. Si tu es en train de croire en Jésus, tu viens régulièrement au culte, tu te considères disciple de Jésus, tu es dans un groupe de maison, tu veux aimer ta ville, est-ce que ce ne serait pas la dernière étape, le truc pour s'assurer que chaque semaine, tu es confronté au prochain endroit que Dieu veut transformer, le prochain endroit où Jésus veut être maître et seigneur de ta vie? On va prier. Les fiches pour les groupes de croissance sont sur la table à la gauche de la porte de sortie. Ces 2 pages, ça montre qu'est-ce que c'est une charte d'engagement que vous pouvez signer ensemble, de confidentialité, tout ça. Le déroulement type en 3 étapes et puis des questions de redevabilité pour commencer. Après, franchement, chaque groupe adapte. Si ta lutte, c'est trop manger, tu le mets. Si ta lutte, c'est la pornographie, tu le mets. Si ta lutte, c'est... la colère, tu le mets, les questions peuvent être adaptées et peuvent évoluer tout au long de cette période de groupe de croissance selon ce que Jésus est en train de te mettre à cœur. Et tu n'as pas besoin d'être adulte pour le faire. Hein. Si vous êtes encore là, les gars, Timéo, Johan, vous pouvez aussi être dans des groupes de croissance. Vous pouvez aussi faire des groupes de croissance entre vous aussi. Ok, je vais prier. Père, tu nous as sauvés, ou tu nous as offert un grand salut. Je ne sais pas qui ici et encore en train d'hésiter, encore en train de mener ses recherches sur ton évangile. Et Père, tu nous as sauvés pour nous transformer, nous faire des disciples qui font des disciples. Et tu vois combien ça peut être compliqué dans notre vie individualiste, super occupée, où on n'a pas le temps pour les autres, où il y a plein de bonnes choses qui sont sur notre agenda et on ne sait pas choisir. Montre-nous, s'il te plaît, Père, par ton Saint-Esprit, en ce moment même et cette semaine, où est-ce que tu es en train de nous appeler à faire des disciples? Où est-ce que tu nous appelles à témoigner simplement de ta grâce? Montre-nous ce que tu veux et donne-nous ensuite les forces pour le faire. Tu vois, Père, comment facilement on essaye de se transformer nous-mêmes et c'est lourd, c'est fatigant. S'il te plaît, remplis-nous de ton Saint-Esprit pour pouvoir te suivre, ressembler à ton Fils et le faire connaître. On demande tout ça, Père, au nom de Jésus. Amen.